Ok, bonjour à tous. Alors, avant qu'on commence, juste un petit point, parce que je ne sais pas si on vous en a parlé. Et avec les difficultés de communication actuelle de Saclay, je ne sais pas si l'information vous est parvenue. Si vous avez des difficultés financières pour vous acheter soit un ordi, soit une tablette, soit payer un forfait pour les connexions Internet, Saclay vous propose un dispositif qui s'appelle le dispositif AMII pour aide matérielle informatique individuelle. Il faut faire la demande, si vous tapez AMII sur Saclay, enfin AMII Saclay sur Google, ça va sortir directement. Et vous avez droit à 350 € max pour un ordi et 150 € pour un forfait annuel de connexion. Donc ordi tablette, 350 € et 150 pour le forfait de connexion. N'hésitez pas, vous avez les infos sur la page de Saclay, il y a un contact, une adresse mail. C'est vie-étudiante.upsaclay@outlook.com. Et donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Ce n'est pas des sommes qui vous permettent de vous acheter un MacBook, mais c'est quand même très utile si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce. J'ai essayé de publier sur eCampus les slides et les fichiers audio d'hier. Impossible de me connecter pour l'instant. Donc, je réessaye aujourd'hui, je réessayerai ce week-end. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Vous inquiétez pas, hein. Ça va finir par revenir, et quand ça reviendra, je vous mettrai l'ensemble des cours qu'on a déjà passés, c'est pas problématique. Je conserve, mais c'est juste pour vous dire, je vous ai pas oublié, c'est juste que en l'état, ça ne fonctionne pas. Donc, pour reprendre là où on s'est arrêté hier, vous vous souvenez, on a commencé à aborder la question du chapitre 2, donc les divisions du droit, et je vous ai expliqué qu'en gros, il y avait deux typologies de distinctions, de divisions possibles à faire, des divisions spatiales. Donc, en fonction, c'est ce qu'on va voir maintenant, en fonction de un peu la géographie de la source, en réalité. Est-ce que c'est une source vraiment de droit interne ou c'est une source supérieure, au sens spatial, pour le coup. Et la deuxième typologie de division, qui est une division en contemplation, cette fois-ci, du type de relation qui est concernée. Est-ce que c'est une relation qui implique l'État, la puissance publique, une collectivité publique, etc., auquel cas vous serez sur ce qu'on appelle le droit public, ou est-ce que c'est une relation entre personnes privées, entre particuliers, dans ce cas-là, ce sera une relation de droit privé. On va commencer tout de suite donc avec une section 1 sur la question des divisions dans l'espace, et on abordera ensuite ce qu'on appelle donc la summa divisio entre privé et public. Donc une section première sur les divisions dans l'espace. Attendez, il faut que je me note aussi qu'on n'a toujours pas. Vous n'avez pas eu de communication sur la date où vous auriez les plans de cours et les fiches de TD? Je les appelle après. Ça va être distribué en amphi, hein, mais il faut le temps que ça s'imprime. Ok, donc, une première section sur les divisions dans l'espace. Il faut vous représenter la situation un peu mondiale en réalité. Ce qu'on appelle au sens strict, parce qu'en réalité il y a deux définitions pour le droit interne. Le droit interne au sens strict, c'est le droit élaboré, voté, adopté spontanément, on reviendra sur cette idée de spontanéité, par l'État français dans l'État français. L'autre signification du droit interne, c'est une signification un peu plus large, qui recouvre cette fois-ci l'idée que le droit interne, c'est tout le droit qui s'applique en France, mais donc pas exclusivement le droit d'origine française. Ça peut être les deux autres blocs qu'on va voir ensuite, le droit de l'Union et le droit international, une fois qu'il arrive dans le droit français. Là, pour ce premier temps, on s'intéresse à la définition stricte du droit interne, c'est-à-dire non seulement le droit qui s'applique en France, mais le droit qui est élaboré en France volontairement par l'État français. Donc ça, c'est un peu le zoom le plus important. L'ensemble des règles adoptées spontanément par l'État, en ce qui nous concerne, nous, puisqu'évidemment, on fait du droit français en première année, les règles qui sont applicables dans l'État français, votées, adoptées par l'État français. Ensuite, vous dézoomez un petit peu et vous regardez l'Union européenne. Donc, vont s'appliquer aussi en France, des règles qui ne sont pas élaborées à l'échelon français, mais qui sont élaborées à un échelon supérieur, qui est donc le niveau de l'Union européenne. Vous avez les membres qui travaillent de concert, on va en reparler dans quelques instants, mais donc qui élaborent des règles au niveau de l'Union, et ces règles, en fait, si on continue l'approche un peu métaphorique, une fois qu'elles sont élaborées, une fois qu'elles ont été adoptées, elles redescendent dans les États membres et elles intègrent les droits nationaux. Et puis enfin, le troisième échelon au-dessus, c'est ce qu'on appelle le droit international, le droit conventionnel, c'est-à-dire l'ensemble des traités, des accords, des conventions qui sont signés par la France avec d'autres États. Alors ça peut être des États membres de l'Union, on peut conclure un traité avec l'Espagne, ça peut évidemment aussi être des traités ou des accords, des conventions conclus avec des États qui ne sont pas membres de l'Union, n'importe quel État dans le monde. Et donc le cas échéant, on va voir aussi tout à l'heure comment ces règles de droit conventionnel sont susceptibles de s'appliquer en France, mais le cas échéant, c'est pareil que pour le droit de l'Union, elles ont une source supranationale, elles viennent d'un endroit au-dessus du seul territoire français, et elles se répercutent, elles redescendent, et elles intègrent le corpus des règles qui s'appliquent en France. Donc vous voyez qu'en fait, quand on parle de droit français, il y a plusieurs significations. Qu'est-ce qu'on vise quand on parle du droit français? Est-ce qu'on parle du droit adopté en France, élaboré en France, à l'initiative seulement des instances françaises? Si c'est ça la définition, en fait, ça va être qu'un tout petit pan de l'ensemble des règles qui s'appliquent en France. Le droit français, dans son acception large, ça englobe donc les deux autres blocs, et c'est évidemment bien plus large que la seule approche de droit franco-français, en quelque sorte. Alors, pour revenir un peu plus dans le détail sur ces trois blocs, le premier bloc de droit interne, encore une fois dans une définition stricte de droit interne. C'est ce qui vient sans doute le plus spontanément à l'idée quand on pense au droit en découvrant l'univers juridique quand on commence les études de droit, c'est notamment la loi, on va en reparler dans quelques instants. Pour l'essentiel, vous travaillerez, vous, en contemplation du droit français. Alors, il y en a peut-être déjà, pour plein de raisons possibles, qui sont attirés vers soit une approche comparatiste, soit vraiment vers une spécialisation dans un droit étranger. Allez pas plus vite que la musique. Voilà. Il y en a sûrement parmi vous qui deviendront soit des comparatistes, donc avec la double casquette de la compétence française et de la compétence d'un autre État. Il y en a peut-être parmi vous qui se spécialiseront exclusivement sur un autre droit. Attendez. On trouve souvent, alors les États-Unis attirent un peu moins maintenant, mais souvent dans les amphis au début, des étudiants qui vous disent tout de suite « Moi, je veux être avocat spécialiste en droit des affaires internationales, en droit franco-américain ou en droit franco-chinois, etc. » C'est super d'avoir un objectif précis comme ça, mais attendez, et surtout pour faire du droit comparé, attendez de bien maîtriser le vôtre de droit. Et après, vous vous lancerez. Mais ça n'a pas de sens d'envisager vraiment du droit comparé au sens technique du terme avant le milieu de la quatrième année ou le début de la cinquième. Voilà. Il faut avoir les armes suffisantes dans votre droit interne pour envisager ça ensuite. Mais évidemment, c'est l'occasion aussi de rappeler que vous avez des systèmes différents et que notre approche du droit interne ici, notre définition du droit interne ici, c'est vraiment l'ensemble de règles applicables aux Français en France, élaborées en France. Donc c'est les lois votées par le Parlement, etc. Mais, et on passe dans ce cas-là au deuxième bloc, il n'y a évidemment pas que ça, et vous avez une part non seulement très importante aujourd'hui là, mais qui est de plus en plus importante au fil du temps, de règles qui émanent non pas du seul État français, mais de l'Union européenne. Voilà. Le droit de l'Union, aujourd'hui, il a une part essentielle dans le droit positif français, ce qui fait que, en fait, quand on vous forme en droit français, ce qui est le cas à l'université notamment, en fait, on vous forme nécessairement au droit européen aussi, parce que vous allez rencontrer tout au long de votre cursus, alors en ce qui concerne évidemment les sources instituées, vous allez rencontrer des directives, des règlements, on va en reparler là. Et puis après, quand vous ferez la jurisprudence, vous avez les cours d'IAJE qui ont commencé ou pas encore? Ça commence quand? Demain. Bon, ça va être essentiel, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je ne sais pas précisément quand est-ce qu'il commence votre cours, mais il est absolument essentiel que vous maîtrisiez les institutions. Et les institutions judiciaires, évidemment, c'est décisif. Pour ce qui vous concerne, vous, donc vous allez rencontrer les sources de l'Union tout le temps, des directives, des règlements quand on parle des sources principales, beaucoup de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne aussi. D'où l'importance du cours d'IAJE, c'est pour ça que j'en parle là. Donc, on est membre de l'Union européenne. En tant que membre de l'Union européenne, on est tenu à l'application des règles qui sont édictées au niveau de l'Union. Ce qui veut dire aussi que quand vous avez des pays qui traversent ce qu'on appelle des crises de souveraineté, c'est-à-dire avec une part de la population qui considère que il y a trop de règles qui émanent de l'extérieur et que leur État a perdu en souveraineté et qu'il faut retrouver cette souveraineté perdue, et ça déclenche des Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union, c'est ça, hein, en fait. C'est une majorité politique, alors qui, d'après les études qui sont faites aujourd'hui, regrette la décision qui a été prise, mais qui décide de sortir de l'Union pour récupérer une forme de souveraineté. Et dans le discours qui est tenu et qui était tenu par les partisans du Brexit, arrêter de se faire imposer des règles depuis l'extérieur et au premier titre par l'Union européenne. Donc il est certain que oui, en étant membre de l'Union, on accepte le fait que une des sources principales maintenant de notre droit positif, elle vient de l'Union. Mais encore une fois, il n'y a pas de... Alors c'est une vision des choses, encore une fois, là, qui est politique et qui échappe à notre analyse, mais il n'y a pas de problème de démocratie. Vous votez, vous avez voté, ou vous voterez si vous étiez trop jeune à ce moment-là, mais pour les députés européens, comme vous votez aux légis ici pour les députés de l'Assemblée nationale en terme. Donc c'est des processus démocratiques, évidemment. Simplement, on est plus nombreux à décider. Et donc, l'un des objectifs des règlements et des directives qu'on verra plus tard, c'est notamment de favoriser ce qu'on appelle un processus d'harmonisation des législations. C'est-à-dire de faire en sorte que sur les États membres de l'Union européenne, vous ayez de plus en plus de règles communes. Pour plein de raisons, ça facilite les échanges, le commerce, la circulation des citoyens. Voilà, il y a plein de grands principes comme ça qui sont à la source de la construction et de l'élaboration du droit de l'Union. Et donc c'est évidemment un objectif premier, c'est ça qui justifie l'omniprésence aujourd'hui des règles issues du droit de l'Union européenne. Et puis, on peut dézoomer encore, donc on a vu le droit interne au sens strict, en sortant un peu le droit de l'Union européenne, en remontant complètement, donc le droit international, c'est-à-dire en fait le droit conventionnel, les conventions, les traités internationaux qui engagent les États signataires, donc les États font le choix de s'engager ou de ne pas s'engager dans un traité international. Si vous vous engagez, que vous, ce qu'on appelle ratifier, c'est-à-dire que vous acceptez le traité en cause, alors le traité oblige évidemment les États, pardon, signataires. Il y a une force contraignante, c'est comme un contrat en fait, hein. C'est un peu la même idée, sauf que c'est entre États, et les États s'engagent réciproquement, mutuellement, à respecter le contenu des traités. Donc on a une part aussi de notre droit, qui est plus résiduelle que le droit de l'Union européenne, mais qui existe quand même, une part de notre droit qui vient des traités, des conventions internationales. L'une des grandes conventions internationales qu'on va rencontrer et qu'on approfondira par la suite, c'est une convention dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est ce qu'on appelle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le droit de l'Union. Elle est piège, cette convention-là, parce qu'elle s'appelle Convention européenne, et donc on a une tentation très forte de la rattacher au droit de l'Union. En fait, ce n'est pas lié au droit de l'Union. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle est signée par beaucoup plus d'États que vous n'avez d'États membres de l'Union européenne. Et donc, il y a un certain nombre, et j'en reparlerai un peu plus tard, mais un certain nombre de grands droits relatifs à la personne qui sont consacrés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et donc, l'ensemble des pays signataires, 47, il me semble, ou 46, puisque la Russie est sortie, l'ensemble des pays signataires sont donc tenus au contenu, au respect du contenu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et quand vous allez commencer vos cours d'institution, vous verrez que cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle a notamment été à l'origine de la création d'une instance spécifique juridictionnelle, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. À ne pas confondre donc avec la Cour de justice de l'Union européenne. Tout ça est un peu technique, je vous conseille vivement de faire des schémas pour vous représenter tout ça, mais donc si je résume là très simplement par rapport à ce qu'on vient de dire, côté droit de l'Union, vous avez donc les instances dont on va parler là, dans quelques instants, qui créent des règles qui s'appliquent dans les États membres, des règlements, des directives essentiellement, il y a des avis aussi, mais c'est essentiellement règlements, directives, et vous avez des instances juridictionnelles, des juridictions, comme nous on a la Cour de cassation, le Conseil d'État, etc. Et donc côté de l'Union européenne, la juridiction principale, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis de l'autre côté, vous avez le droit international. Parmi les conventions et les traités internationaux, vous avez notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et cette convention européenne-là, qui n'est donc pas européenne au sens de l'Union, mais qui est ce qu'on appelle pan-européenne, donc qui couvre plus largement, cette Convention européenne de sauvegarde, elle a été à l'origine, notamment, de la création de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une autre institution et qui ne relève pas de l'Union européenne. Donc voilà pour les différents étages. Donc vous vous rendez compte, et c'est un des points essentiels à retenir, et qui, encore une fois, que vous allez retrouver tout au long du cursus, hein, que, en fait, la France, l'État français garantit l'application de règles qui ne se limitent pas du tout aux seules règles adoptées, élaborées sur le sol national, du tout. En fait, le droit applicable en France, c'est un champ bien plus large que le droit élaboré en France. Voilà. Et donc les règles dont vous aurez à vous saisir ne sont pas du tout systématiquement des règles franco-françaises. Certes, elles s'appliquent en France, mais elles peuvent avoir bien d'autres origines que les seules instances d'élaboration des règles qu'on connaît dans l'État français. On parlait du droit international. Il faut faire attention, on va réaborder cette question-là quand on va voir les divisions dans la relation, mais il faut faire attention parce que le droit international, ça nous permet de distinguer deux hypothèses, le droit international public et le droit international privé. On est là dans une situation un peu différente de ce qu'on vient d'envisager. Le droit international public, il a vocation à réglementer les rapports des États entre eux. Le droit international public, c'est le droit qui organise le fonctionnement des instances, des organisations internationales. Voilà. C'est son objet. Alors, ses sources à ce droit international public, c'est les traités et les conventions internationales. Il y a un peu de coutume internationale, mais vous verrez ça bien plus tard. Les sources principales, c'est les traités et les conventions internationales. Et puis là aussi, le droit international public, il se dote d'organes internationaux, certains que vous connaissez parce qu'on en entend parler régulièrement, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Le fonctionnement, l'organisation, les compétences, les pouvoirs du Conseil de sécurité de l'ONU, tout ça, c'est des questions qui relèvent du droit international public. La question des sanctions se pose dans ce droit-là, j'en reparle dans quelques instants. Et puis, parallèlement au droit international public, vous avez le droit international privé. Là, c'est une autre question. Il ne s'agit plus des rapports entre les États et d'organiser ces rapports entre les États. Je vais vous donner l'approche technique et je vais essayer de simplifier ensuite. L'objectif du droit international privé, c'est de déterminer comment on choisit la règle applicable. Quand vous êtes face à une situation juridique qui présente un élément d'extranéité. Pas de panique, j'explique. Quelle est la règle que vous pouvez appliquer à une situation juridique qui présente un élément d'extranéité ? Bon, l'élément d'extranéité, vous êtes peut-être un peu paumé là à ce stade. En fait, l'élément d'extranéité, c'est simplement, je suis dans une situation juridique et ma situation juridique ne relève pas pleinement, exclusivement d'un seul État. Exemple, j'invente complètement, on s'en fiche. Vous vous occupez d'une succession, donc il y a une personne qui est décédée et il faut voir comment s'organise la succession, qui sont les personnes qui sont susceptibles d'hériter, comment se répartissent les biens et les propriétés qui ont été laissées. Bon, vous vous occupez d'une succession, le défunt, il avait la nationalité russe, il est décédé en Allemagne, mais il était propriétaire d'une maison en Provence. Quelle loi est-ce que j'applique pour déterminer qui est propriétaire du bien au décès ? C'est ça le droit international privé. C'est le droit, c'est un peu un droit d'aiguillage, si vous voulez. C'est le droit qui va vous donner les clés pour dire dans telle situation qui présente donc un élément d'extranéité. Vous voyez bien que là, dans notre exemple, en fait, on a trois législations applicables possibles. La législation russe, la législation allemande, la législation française. Alors, il y a des hypothèses en droit international privé, pardon, où ça sera grandement facilité parce que les trois lois différentes vous diront, bah, en fait, l'héritier d'un immeuble, c'est les enfants. Dans ces cas-là, on ne se posera pas de problème. Mais si vous avez la loi russe qui vous dit l'héritier premier, c'est l'épouse, l'autre qui vous dit l'héritier premier, c'est, j'invente complètement, c'est juste pour vous expliquer, c'est les enfants avec une part prépondérante à l'aîné des enfants. Et la troisième législation qui vous dit, bah non, c'est à part égale entre le conjoint survivant et les enfants, les trois lois susceptibles de recevoir application dans une situation juridique internationale vont vous donner des solutions différentes. Le but du droit international privé, c'est de vous dire, dans telle situation, la loi applicable, c'est celle-ci. La loi française, la loi russe, la loi allemande, dans notre exemple, en fonction de ce que vous retiendrez. C'est ça, en fait, la définition du droit international privé. Déterminer quel est le droit interne applicable à une situation internationale. Il faudrait ajouter que le droit international privé s'occupe aussi de la juridiction compétente. C'est-à-dire que quand vous faites du DIP, il faut aussi savoir quel juge vous saisissez pour vous organiser. S'il y a des conflits de succession, qui est le juge compétent ? Toujours pareil, là, dans notre exemple, est-ce que c'est le juge russe ? Est-ce que c'est le juge allemand ? Est-ce que c'est le juge français ? Donc ça sert à ça, le droit international privé. C'est un droit qui va organiser les rapports entre les particuliers quand il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire, encore une fois, quand le litige, quand la situation juridique n'est pas limitée dans les frontières d'un seul État. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce stade-là ? La règle de droit qui prescrit une solution, elle peut avoir une origine géographique, spatiale, différente. Droit interne au sens strict, droit de l'Union européenne, droit conventionnel international, parce que la France a ratifié, a été partie à un traité ou à une convention. Mais cette règle-là, elle peut aussi servir dans l'espace à pointer le curseur sur le droit interne applicable. C'est ce qu'on a vu avec les logiques de DIP. Ça nous fait le lien, du coup, la distinction entre le droit international public et le droit international privé, avec la grande distinction quand on pense les divisions du droit, qui est la distinction en fonction de la relation. Et donc ça fait l'objet d'une section 2, les divisions selon la relation. Les divisions selon la relation. Vous pouvez être face à une situation juridique qui s'est nouée entre deux individus, ce qu'on appelle deux personnes privées en droit, deux particuliers. Et puis, vous pouvez vous retrouver aussi face à une situation qui va se nouer entre une personne privée, un particulier, et l'État, une collectivité publique, un établissement public, voire face à une relation qui se tisse entre deux émanations de la puissance publique. Un litige entre l'État et un hôpital, par exemple. Dès lors que vous avez une intervention de l'État ou de l'une de ces émanations dans la situation juridique, alors c'est du droit public. Si ça ne concerne que les particuliers, pardon, j'ai pas changé de slide. Si ça concerne que les particuliers, alors la relation qui se tissera sera une relation de droit privé. Évidemment, on va approfondir cette distinction-là maintenant, mais ce qu'il y a à retenir d'entrée, c'est ça.
Donc en fait, ceux qui sont plutôt attirés par le public ont une volonté plus grande de s'intéresser aux conflits et aux situations juridiques qui mettent en cause de près ou de loin l'État, les émanations de l'État. Voilà. Et quand ça vous intéresse moins, bah vous êtes plutôt sur le fil privatiste. Les origines et le sens de la distinction d'abord dans un premier paragraphe. Donc paragraphe 1, distinction. La distinction entre le public et le privé, elle trouve ses racines en droit romain. C'est ce qu'on appelait à ce moment-là, c'est ce que je vous ai mis au tableau, la distinction entre le jus privatum et le jus publicum, c'est-à-dire droit privé, droit public. Hein, on n'a pas inventé grand-chose depuis. Pour une très large part, en fait, l'essentiel de la distinction, elle est déjà opérée en droit romain. Je vous ai mis les propos d'Ulpien au tableau, qui était un jurisconsulte entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe. Et en fait, la formulation qui est là, elle peut quasiment se retrouver en l'état dans un manuel de droit aujourd'hui. L'étude du droit a deux domaines, le droit public et le droit privé. Le droit public envisage tout ce qui a un rapport à l'état romain. Le droit privé, ce qui concerne les intérêts privés, il faut en effet distinguer l'intérêt public des intérêts privés. La seule chose qu'on peut contester, j'y reviens dans un instant, c'est ce prisme de l'intérêt, parce que ce n'est pas forcément le meilleur critère. On va voir dans quelques instants que vous pouvez avoir des situations de droit privé qui mettent en cause un intérêt public. Donc l'intérêt, ce n'est pas forcément le critère le plus parlant, mais par contre, il est certain que dès lors que vous avez la présence dans la relation de l'État, alors plus l'État romain évidemment pour nous de l'État français, mais de l'État ou de l'une de ses émanations, vous êtes côté public, s'il n'y a pas cette présence-là, vous êtes côté privé. Donc la distinction est assez claire, elle est assez claire, attention, pour autant elle n'est pas absolue, on va voir tout à l'heure qu'elle n'est pas complètement étanche, la distinction entre public et privé. Plus largement, cette distinction-là, à l'époque romaine, si on regarde l'héritage romain, elle s'opère en fait entre tout ce qui concerne d'un côté la res publica, en deux mots, res publica, R-E-S plus loin, P-U-B-L-I-C-A, c'est-à-dire en fait si on traduit la chose publique, c'est ce qui a donné le terme de république, mais en latin ça veut dire la chose publique, donc on retrouve l'intérêt public d'Ulpien. Donc entre la res publica d'un côté et ce qu'on appelait la persona de l'autre, comme personne mais avec un seul N et A à la fin. Donc c'est la personne au sens du citoyen romain qui est appréhendée en tant que membre de la res publica, voilà, de la société romaine. Et en fait, vous avez vraiment ces deux volets-là. Est-ce que ça concerne l'État? C'est du public. Est-ce que ça concerne la personne au sens de la personne privée? Et dans ce cas-là, c'est du droit privé. Ben finalement, cette sous-division-là, cette grande distinction-là, elle a perduré pendant des siècles et des siècles. Ça a été une source d'inspiration immense pour les juristes de la royauté française, et après, avec le début de l'émergence d'un État moderne à partir du XVIe ou XVIIe, on va voir se développer un droit national de plus en plus grand relatif à l'État. Il y a une apparition du droit public interne en même temps que l'État moderne se structure, donc des règles de plus en plus nombreuses sur l'État, sur le fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement des institutions de l'époque, évidemment. Mais donc, on a vraiment très clairement cette dualité dans le droit entre public et privé. Et très souvent, et c'est un peu le sondage qu'on a fait hier, hein, très souvent, votre appétence, elle va se marquer assez vite. C'est très rare, en fait, de se décider en fin de deuxième année sur le « est-ce que je suis plutôt public ou privé ?» Vous allez voir, cette année, ça va être décisif, parce que vous avez donc l'intro qui, malgré tout, a une coloration plutôt privatiste, même si on fait un peu de public, famille au second semestre, et vous avez, je parle que des matières fondamentales, et vous avez le constit sur deux semestres, donc vous allez voir très vite ce qui vous attire plus et ce qui vous attire moins. Et en deuxième année, pour le coup, à mon sens, vous verrez bien, hein, mais ça va se trancher encore plus, vous allez faire contrat et responsabilité en civil sur la partie privée, et vous allez faire du droit administratif en public. Là, généralement, la dissension entre les publicistes et les privatistes, elle se fait encore plus nettement. Donc, vous allez voir très vite. Mais donc, l'explication, c'est ça. Si on résume, il faut regarder la physionomie de la relation. Est-ce que cette physionomie ne concerne que des personnes privées, que des intérêts individuels? Dans ce cas-là, hop, c'est du droit privé. Est-ce que, au contraire, cette relation-là, elle concerne non seulement du droit privé, un individu, une personne privée, mais aussi l'État? Alors, dans ce cas-là, ça ne relève que du droit public. Parfois, on peut avoir un peu de difficulté à envisager. Par exemple, le mariage, il y a une reconnaissance étatique. Pour autant, ça ne concerne que des personnes privées. Le mariage, c'est l'union de deux personnes privées, de deux individus, de deux personnes physiques. Donc, c'est juste des intérêts particuliers. Une focalisation sur des personnes privées, et dans ce cas-là, c'est du privé. Il faut, dans le schéma de l'intervention, l'intervention de la puissance publique. Si ce n'est pas le cas, alors très clairement, c'est du droit privé. C'est, à mon sens, le critère qui fonctionne le mieux. Est-ce qu'il y a ou pas une personne publique, une personne privée? Est-ce que c'est que des personnes privées? C'est du droit privé. Est-ce que c'est des personnes privées, des personnes publiques ou juste des personnes publiques? Dans ce cas-là, c'est du droit public. L'autre critère dont on parlait tout à l'heure par rapport aux propos d'Ulpian, c'est donc le critère de l'intérêt protégé. Certains auteurs vous disent, quand c'est un intérêt privé, quand c'est des intérêts particuliers, alors c'est du droit privé. Quand c'est un intérêt général, quand c'est un intérêt collectif, alors c'est du droit public. La notion d'intérêt me paraît plus difficile à systématiser. En fait, il y a plein de règles issues du droit privé qui protègent un intérêt général. Pour le coup, typiquement, si on reprend les règles du mariage, vous avez l'interdiction de vous marier avant 15 ans. Alors certes, cette règle-là, elle protège des intérêts particuliers, mais on peut se dire que le fait d'interdire le mariage des enfants de 6 ans, c'est aussi protéger un intérêt général, que l'ensemble de la société, dans les valeurs qu'elle porte, plutôt intérêt à interdire le mariage d'enfants de 3 ou 4 ans. Donc, la notion d'intérêt, vous la trouverez hein, dans les manuels, c'est pour ça que je vous l'expose, pour que vous ayez l'ensemble des éléments, elle n'est pas erronée. Elle me paraît plus incertaine. Autant de savoir si dans une situation juridique, je suis qu'avec des personnes publiques ou qu'avec des personnes privées, ça se détermine très facilement et c'est systématique, il n'y a pas de flou. Autant la notion d'intérêt privé ou général, en tant que privatiste, pour le coup, me paraît moins convaincante, disons. Voilà. C'est pas exactement la même chose. Ces différences entre le public et le privé, vous allez les retrouver dans vos institutions, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les ordres juridictionnels. Je ne fais pas ici un cours d'institution judiciaire, c'est pas ma mission, c'est pas l'objet du cours d'intro, mais il faut quand même rappeler très brièvement que, évidemment, cette dualité entre public et privé, elle a de vraies conséquences, elle a donc des conséquences pour vous au stade de la formation intellectuelle qui est la vôtre à partir de maintenant pour devenir des juristes, d'un côté ou de l'autre, en public ou en privé, mais c'est une opposition que vous allez retrouver systématiquement. Les ordres juridictionnels, donc les juridictions, hein, les juges que vous allez pouvoir saisir, il y a deux ordres dans le droit français, l'ordre judiciaire, donc pour tout le droit privé, et l'ordre administratif, on appelle ça comme ça, pour tout le droit public. Si vous avez un litige avec un hôpital, vous allez saisir un tribunal administratif. Au-dessus, vous aurez une cour d'appel administrative, et tout en haut, vous aurez le Conseil d'État. Si c'est un litige entre deux camarades là en amphi parmi vous, ça sera un litige entre deux personnes de droit privé, quelle que soit la nature. Dans ce cas-là, vous allez vous tourner vers les juridictions judiciaires, le tribunal judiciaire en première instance, la cour d'appel et la cour de cassation tout en haut. Voilà. Donc, cette dualité-là, elle est essentielle, elle va structurer vos apprentissages, elle va structurer vos orientations, elle va structurer votre pratique. Je vous invite à retenir... Ah oui, alors, ça je ne l'ai pas dit. Encore une fois, je prends la précaution oratoire, pardon.
de repréciser à chaque fois que je ne le lis que pour moi. Je ne veux pas vous faire n'importe quoi sur les autres matières, je ne parle ici que pour le cours d'intro. Pour le cours d'intro, n'apprenez rien par cœur. Rien. Les citations que je vous mets entre guillemets, je sais que je vais les retrouver en accroche dans les copies à l'examen apprises par cœur. Ça ne sert à rien. À rien. Vous n'êtes pas là pour ça. Je suis archi contre le par cœur. Ça vous mange le cerveau d'informations que vous allez avoir oublié 3 semaines après l'examen. Si on est large sur 3 semaines, ce n'est pas le but. Donc, je fais un aparté, mais c'est essentiel et on en reparlera quand je vous expliquerai les fiches de TD. Vous allez avoir plein d'arrêts dans les fiches de TD, des arrêts de la Cour de cassation surtout, qui vont avoir des dates, etc. Ne m'apprenez pas les dates. Je m'en contrefiche. Ce n'est pas là-dessus que je vous évalue. De savoir si l'arrêt dont vous me parlez, c'est le 12 mai 72 ou le 14 mai 73, c'est, voilà. Je sais que vous savez lire une décision et que donc, si vous l'avez sous les yeux, vous saurez me donner la date. Ne m'apprenez pas les numéros d'articles du Code civil non plus. Dans une copie, le législateur dispose que. Et c'est très bien. Et vous me donnez le sens de l'article, pas l'article par cœur. Je ne veux pas de par cœur en intro, pour rien. Ni pour les dates, ni pour les contenus des articles, ni pour les citations, ni pour le cours lui-même. Apprenez pas par cœur, ça ne sert à rien. Faites des fiches. Essayez de raisonner. Voilà. On est là pour vous apprendre à penser en juriste. Il y a un truc très clair en plus pour votre génération, alors qui est très différent des générations qui vous ont précédé, mais qui est déterminant sur votre approche des études. Si c'est pour faire du par cœur, souvent les études de droit c'est présenté comme du par cœur, c'est pour ça que je vous le dis. Si c'est pour faire du par cœur, l'intelligence artificielle le fait déjà bien mieux que vous et que moi. C'est, voilà. Si on résume le boulot du juriste, quel que soit l'angle que vous choisirez pour vos métiers, vos professions, à du par cœur, laissez tomber, c'est pas la peine. Elle va manger la sphère juridique, si c'est que ça. Heureusement, c'est pas que ça. Voilà. Et l'intelligence artificielle, en fait, en capacité de raisonnement, pour l'instant, on verra dans quelques années, mais pour l'instant, elle est relativement limitée. Donc, tout ça pour vous dire, là, vous avez la citation d'Aubert et Sabot que je vais reprendre avec vous, ne me la prenez pas. Et j'ai eu la question hier, mais c'était en fin de cours, et donc j'ai oublié de refaire un point. De savoir si vous deviez acheter le code civil. Peut-être qu'il vous le faudra en famille. Donc ça, je ne peux pas préjuger. En intro, achetez-le si vous pouvez vous le permettre. Si ça grève le budget, c'est pas la peine. Pour une raison simple, que j'annonce maintenant, je me fiche des doléances qui viendront, c'est comme ça, c'est l'intérêt, c'est pour le coup, c'est moi qui décide. Le code civil ne sera pas autorisé à l'examen. Voilà, pour justement pas mettre dans une situation plus difficile des étudiants qui ne peuvent pas sortir 25 ou 30 euros pour un examen. Donc pas de code à l'examen. Je fais mon sujet d'examen en contemplation du fait que je ne vous autorise pas le code, donc pas de panique. C'est simplement, encore une fois, pour avoir une égalité de traitement, parce qu'autant vous dire que quand c'est la ruée à la BU pour pouvoir emprunter le code avant l'épreuve, ils n'ont pas 380 codes civils à vous donner. Donc il n'y en a pas pour tout le monde. Je ne veux pas que ça circule en amphi pendant l'épreuve, donc pas de code pendant l'épreuve. Si vous pouvez l'acheter, c'est bien. De toute façon, que vous puissiez ou pas, pour le coup, allez le consulter. Allez en BU, ouvrez-le, regardez comment ça fonctionne, regardez comment c'est présenté, vous le bosserez en télé. Donc, dans la mesure du possible, venez avec un code si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, mon équipe pédagogique est prévenue, ce n'est pas déterminant. Voilà. Je ne peux pas garantir que ce sera pareil en famille, je n'en sais rien. Moi, je vous dis qu'en intro, je n'ai pas de nécessité que vous ayez un code civil, donc il n'y a évidemment aucune obligation. La parenthèse étant refermée, les deux définitions des professeurs Aubert et Sabot sont sans doute parmi les plus précises sur la définition. Le droit privé rassemble les règles qui s'appliquent au rapport entre les particuliers et qui assurent prioritairement la sauvegarde d'intérêts individuels. Le droit public, à l'opposé, lui, regroupe les règles qui organisent l'État et les collectivités publiques, ainsi que celles qui régissent les relations établies par celle-ci ou par celui-là, pris comme expression de la puissance publique avec les particuliers.
Le grand intérêt de ces deux définitions-là, c'est que vous voyez que autant dans la définition du droit privé, on identifie les intérêts individuels, autant il n'y a pas de référence à l'intérêt général dans la définition du droit public. Et en fait, l'accent est surtout mis sur les personnes en présence. Est-ce que c'est des particuliers ? C'est du droit. Est-ce que ça n'est que des particuliers ? Dans ce cas-là, ce sera du droit privé. Est-ce que c'est des particuliers plus une émanation, une expression, pour reprendre la citation, une expression de la puissance publique, l'État, un hôpital, une université, etc. Et dans ce cas-là, le rapport que vous analyserez, et que vous aurez à appréhender, sera un rapport de droit public pour le coup.
Ça, c'est la distinction classique. Public, privé, encore une fois, c'est une distinction qu'il ne s'agit pas du tout de remettre en question ici, qui est une distinction absolument essentielle parce que c'est une distinction qui est structurante. Pour autant, ça n'est pas une distinction absolue. Il n'y a pas une frontière totalement hermétique qui fait que soit c'est complètement privé, soit c'est complètement public, et il n'y a pas de zone de gris. Précisément, on va voir que cette distinction, pour être opérationnelle, pour être efficace, pour être utile aussi, elle n'est pas absolue et elle connaît au contraire un certain nombre de limites, de sorte qu'en fait, on va faire la pause maintenant, on le verra après, mais on verra après la pause qu'en fait, il n'y a pas deux pans, mais il y a trois pans, deux pans bien identifiés public-privé et un pan qui est entre deux et qui se compose de ce qu'on appelle les droits mixtes. On fait une pause de 10 minutes, on se retrouve après.